Troisième album.
Oui.
Avant cet album-là, tu as fait un camp d'écriture.
Ouais.
Avec la SOC. Hein?
Exact.
Comment ça s'est passé d'abord, cette expérience-là?
Ça a été déstabilisant, mais tellement gratifiant. Puis ça m'a tellement aidé. En fait, j'avais besoin de me sortir un peu de mes bottines, d'aller ailleurs. On arrive à un troisième album. J'ai besoin d'idées. J'ai besoin de retrouver, en fait, l'espèce de folie puis la liberté créatrice. Parce qu'à un moment donné, ça devient tellement de pression quand on fait ça. Parce que, bon, mes deux premiers albums ont quand même bien marché. Les gens me suivent. Fait que là, on va arriver avec un troisième que les gens vont aimer aussi. Puis là, je trouvais que j'embarquais tranquillement dans cette espèce de... d'engrenage-là, de on veut que les gens aiment ça.
Fait qu'on va refaire la même chose.
Ouais, c'est ça. Ou tu sais, on veut juste nourrir cette affaire-là, puis on oublie qu'à quelque part, on fait de la musique parce qu'on trippe. Fait que rapidement, c'est arrivé au début du processus quand même. Je suis allé là, puis parce que moi, il y a une phrase que je dis toujours, c'est que pour avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Puis j'essaie de le faire. C'est difficile parce que dans la vie, on aime manger les mêmes affaires à un moment donné. On aime nos cafés, on a nos petites habitudes.
Il y a un confort.
Il y a un confort. Puis en allant là, je savais que j'allais sortir de ma zone de confort. Puis il y avait des gens de stylistique complètement différente. Stéphanie Boulay, Karim Ouellet, Pilou étaient là aussi. Puis je me sentais vraiment petit cul quand je suis arrivé, parce que moi qui fais de la pop et tout ça. Et finalement, j'ai capoté. Il y a eu une espèce de synergie parce qu'on était isolés dans le chalet là-bas. Puis à quelque part, là-bas, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stylistique. On s'en fout, on est que des musiciens qui sont dans des chalets. Puis à la fin de la journée, il faut donner une chanson. Il faut qu'il y ait une chanson. Puis cette chanson-là n'est pas jugée parce qu'on va pas dans un palmarès.
Oui, le but n'est pas de créer le prochain gros hit radio.
Non, le but est de faire de la musique, de se faire triper et de s'amuser ensemble. Fait que ça m'a vraiment reconnecté avec la liberté créatrice, je te dirais. Ce qui fait que je suis revenu de là-bas. Puis dans l'espèce de 2 heures de ride de char, j'ai pas mis de musique. Puis j'écrivais dans ma tête. Puis j'écrivais des affaires. Puis tout le reste de l'album est sorti en même pas, je dirais un mois après. Okay. J'écrivais 1-2 chansons par semaine. Puis après ça, je peaufinais mes textes. Puis là, j'étais en feu littéralement. Là.
Es-tu un meilleur auteur depuis ce jour-là?
Oui.
Oui, clairement.
Vraiment. Clairement, parce que c'est pas que mes capacités ont changé, mais je te dirais que j'ai repris confiance en mes mots, parce que justement là-bas, j'avais pas le choix de le faire. Des fois, on prenait des chansons, j'ai fait une chanson avec Rhymes puis Coralie, tu sais, les trois ensemble.
Autre chant complètement.
Complètement. Puis on a fait une toune qui est complètement débile, français, anglais, puis tout. Puis j'avais un couplet que j'ai écrit rapidement, puis on dirait que ça m'a redonné confiance en ma façon d'écrire. Puis j'ai compris que je travaille encore avec des auteurs, ça arrive, mais je me rends compte que nonobstant le fait que Nelson Mainville, Amélie Larocque, tous les auteurs, Marc Dupré avec qui je travaille sont écœurants. Ils diront jamais les choses comme moi je les dirais. Fait que ça va sonner différemment. Fait que ma façon de dire les choses et de chanter les choses a le droit d'exister aussi. Puis il faut juste que je me fasse confiance. Puis je me rends compte que j'assume encore plus les chansons quand j'écris mes textes aussi.
Est-ce que ça en fait donc un projet plus personnel, t'as l'impression?
T'sais, on dit tout le temps ça à chaque fois.
Oui, je sais bien, mais quand c'est des chansons écrites par d'autres, évidemment, ça se rapproche de notre réalité.
Oui, oui.
Mais vu par un autre. Là, c'est toi qui vois toi. Là.
Exactement. Puis, tu sais, souvent, moi, je fais la musique et c'est au niveau des paroles que, justement, je vais acquérir de l'aide. Oui, effectivement, ça devient plus personnel. Ça n'a pas le choix parce que même au niveau de la mémorisation puis de tout ça, même si je passe des fois 8 versions de texte, ça reste mes mots, ça reste ma façon, ma vision. Je trouve que c'est vraiment l'art complet, en fait, quand on écrit paroles et musique. Ça devient donc, oui, plus personnel, puis plus complet. Puis on dirait que c'est plus gratifiant, mais pas juste dans le résultat final, par dire hey, « c'est moi qui ai écrit à toi ». Non, mais dans la livraison, puisque toutes les sonorités, les voyelles choisies, les mots, l'image, ça sort tout de la même personne. Fait que je sais pas, c'est l'art complet. Ça arrive pas tout le temps, mais il y a plein de chansons là-dessus que je suis vraiment fier d'avoir fait les deux parce que je me sens complet, en fait.
Mais tu dis « je me fais plus confiance », donc est-ce que tu étais plus dur avec toi-même avant? Est-ce que tu jetais plus rapidement que maintenant,
la serviette,
par exemple?
Oui, complètement, parce que... Mais c'est pas négatif, tout ça, parce que je suis arrivé dans ce métier-là, j'ai travaillé avec des pros, là, tu sais. J'arrive avec Marc Dupré, qui écrit 400 tonnes par jour, puis qui est tellement bon, puis passionné que, veux pas, je le regardais aller, puis des fois, je suis comme, ben oui, c'est ça, c'est sûr, il était écœurant, hein, c'est lui, tu sais, je le fais, puis je le suivais, Puis je m'exprimais beaucoup, puis il me faisait confiance. Il me donnait, tu sais, il me donnait la confiance. C'est pas ça le point. Mais à un moment donné, puis là, je rencontre Nelson Mainville qui écrit des textes. C'est drette ça. Amélie Larocque qui est tellement talentueuse. Fait que, tu sais, je me disais, j'avais un peu peur de comparer mes textes à leurs textes, puisque c'est des gens qui font ça depuis longtemps, tu sais. Fait que j'avais un petit peu décidé que moi, la musique, c'était ça, puis que des textes, j'allais m'en mêler, mais que c'était plus tough, tu sais. Puis là, ben, ça m'a complètement reconnecté avec le côté de l'écriture. Puis j'ai pris mon temps. Puis c'est aussi mon réalisateur. Il faut que je donne du crédit là-dessus, Gauthier Marinoff. Parce que vu que j'étais rendu que je travaillais comme ça, donc je faisais beaucoup la musique. Aussitôt que je faisais la musique, donc je faisais un espèce de texte en franglais. Et là, je travaillais tout l'arrangement de la pièce. J'ai envoyé une pièce avec déjà du kick, du snare. Je jouais de la guitare. Puis là, je mettais des back vocals. Puis je faisais tout le kit. Puis là, j'arrivais à mon réalisateur. Puis c'est ça, tune. Mais là, il fait... La job de réalisation est faite.
Pourquoi tu m'engages?
Et là, cette fois-ci, il me l'a dit comme ça, puis il dit, pourquoi tu n'essayes pas de faire autrement? J'ai dit, qu'est-ce que tu as besoin pour être complètement libre là, de t'amuser? T'sais? Ben, il dit, fais-moi une track de guitare, une track de voix, travaille tes textes complètement, parce qu'il dit, si tu arrives et on n'a pas le texte, on ne sait pas si en bout de ligne, la chanson va se retrouver sur l'album, parce qu'on n'a pas le texte. T'sais? Oui, même si on connaît plein de monde qui sont performants. Puis c'est vraiment lui, le camp, ce camp, tout s'est emboîté comme ça. Et finalement, ça a fait qu'à toutes les fois, je travaillais bien mes trucs. Puis même que la majorité des tracks de voix qu'on entend sur l'album, je les ai fait chez moi, tu sais. Fait que j'ai un peu réalisé mon vocal, je l'ai fait comme je le voulais. J'ai trouvé la tonalité, le bon texte. Fait qu'il y a quelque chose de plus achevé, de plus personnel, ouais.
T'as fait deux lancements, un à Montréal, un ouais. À Chicoutimi, dans ton coin.
Oui.
Lequel est plus stressant?
Oh mon Dieu, je pense que c'est Chicoutimi.
Parce que tout du monde que tu connais.
C'est tout du monde que je connais. Je veux pas les décevoir. Puis là, cette année, c'était une formule un peu plus réduite. J'ai eu la chance d'être parrainé un peu par les gens du Théâtre Banque Nationale à Chicoutimi qui m'ont prêté l'endroit. Mais on pouvait pas faire un gros lancement. C'était vraiment un peu plus cosy. Puis là, je voulais que les gens... J'aurais voulu faire le même lancement que j'ai fait à Montréal au Saguenay. T'sais, j'aurais voulu. Pour vrai, c'était pas une volonté... c'était une volonté politique qui a fait que c'était différent, disons ça de même. Mais, tu sais, ils m'ont aidé, c'était cool, mais j'aurais aimé ça que les gens du Saguenay voient la totale avec les danseurs puis tout, parce que le spectacle de Montréal était fort différent. Mais oui, bref, c'était important d'aller dire merci aux gens du Saguenay. Peu importe c'était quoi la forme, c'était plus winner de le faire comme ça, se donner comme ça qu'on a fait. On était deux, moi et mon... mon directeur musical, puis il y avait les télés, puis tout le trip. Fait que c'était cool, les gens ont trippé, c'était le fun. Mais oui, c'était important d'aller dire merci aux gens du Saguenay.
On a entendu Prier encore tout à l'heure, qui est le premier extrait de l'album. Quand ouais. La chanson est lancée et que ça commence à décoller dans les radios, est-ce que ça donne confiance pour la suite du projet?
Ben, c'est sûr que oui, mais comment je dirais, c'est la seule certitude dans ce milieu-là par rapport aux chansons qu'on écrit et le succès potentiel ou non qu'elles vont avoir, la seule constante, c'est qu'il n'y en a pas.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, tu sais. Je veux dire, combien de fois on a entendu des histoires de mes aïeux avec des générations qui ne voulaient même pas mettre sur l'album, finalement, c'est un hit planétaire ici, là, tu sais. C'est comme, tu sais, fait que oui, mais non en même temps, tu sais, on dirait que... on a appuyé ce côté-là, rock, avec Prier encore, que j'avais aussi dans les deux premiers albums. On s'est amusé, c'est un texte bien personnel aussi. Ça a été une tune qu'on a trippé à faire, Marc et moi, je capote sa tune encore aujourd'hui, elle est excellente, tu sais, mais elle a peut-être pas eu la réception que je m'attendais. Puis on dirait que ça m'a un peu remis en question aussi, puis je me suis dit, ah ben tiens, tu sais, dans le fond, là, le monde, ils veulent le reconnaître, moi. Le dénominateur commun de ce que je fais, c'est moi, c'est ma personnalité, ma voix. Fait que peu importe la stylistique de chanson que je fais, si moi j'aime la chanson puis que je me sens bien dedans, ben le succès après ça, il m'appartient pas. Gilles Vigneault disait, à partir du moment où on écrit une chanson et qu'on la livre, elle nous appartient plus, les gens en font ce qu'ils veulent. Fait que c'est même pas nous qui décidons si c'est un hit ou non, t'sais. Fait que rendu là, on dirait que ça m'a enlevé de la pression que j'ai faite, ben je fais ce que je veux, puis ce qui me tente, puis je suis sûr que les gens vont me suivre.
Parle-moi-en de Prier encore, justement. Ça parle de quoi?
Prier encore, c'est vraiment une histoire d'amour, en fait, et d'espoir en même temps. J'aime toujours ça quand il y a deux couches à une chanson. Au départ, c'est vraiment parce que, personnellement, j'étais en amour, puis là, ça prenait du temps, puis tout. Puis, tu sais, j'ai retrouvé cette espèce de folie-là du début où ce qu'on attend, juste un signe, juste un texto, juste un petit moment, qu'on se dit, ça serait tellement le fun. Et en même temps, Puis en fait, de finir par remettre ça dans les mains de Dieu ou de l'univers, ou appelons ça comme on veut. Fait que, donc, de se mettre à prier encore. Puis tu sais, qu'on prend le téléphone, qu'on fait. Je me souviens encore, Marc et moi, on est ensemble, on dit c'est ça. Il a trouvé le titre, il dit prier encore. Même justement dans ce moment-ci où la religion a peut-être moins de place qu'avant et peut-être même rabrouée un peu. Même si on ne croit pas, on finit tout à un moment donné par regarder en l'air. Fait comme, oh, vas-y, sonne, tellement. Tu sais, ouais. Fait que je trouvais ça intéressant, puis ça parle aussi de la société en général. Peu importe ce qu'on veut avoir dans la vie, à un moment donné, il faut un peu laisser aller les choses, puis en remettre à plus grand, mais garder espoir. Bref, c'est une chanson d'espoir.
Mais quand on veut faire un album plus dansant, plus facile quand on est en amour.
Oui, c'est sûr que ça aide à danser.
Le mode qui vient avec.
Oui, mais tu sais, en même temps, j'aime ça aussi. Je l'avais fait avec Goodbye Girl. Ce que j'aimais, c'est que c'est une chanson qui fait danser, qui est positive, mais dans le fond, le gars, il dit qu'il veut peut-être sacrer son camp. Oui. Fait que, je trouvais que ça marchait aussi. C'était un beau clash. Puis, si on prend aussi des artistes comme Stromae, qui fait des chansons assez lourdes
oui,
de sens,
mais
des
qui
fois,
met dansant.
Mais qui sont full d'ensemble, tous les mêmes. Oui. C'est, le texte est rough, là.
Oui, oui.
Puis, mais c'est excellent, ça marche. Fait que, oui, c'est plus facile parce que moi, c'est dans ma personnalité aussi. Je suis quelqu'un de positif qui est tout le temps. J'essaie de dire, OK, vas-y, change, pivote. Pourquoi t'es fâché? Laisse faire. Ah ouais, avance. Vas-y, on switch, on s'amuse. Fait que moi, ça m'aide de chanter des trucs positifs puis de danser. Mais c'est sûr que je suis un amoureux de l'amour. Là, t'sais, fait que ça va bien. J'ai des tatous, mais c'est rien que des fleurs. Fait que,
tatoué au cœur tendre.
Voilà, exactement.
Tu voulais un disque plus dansant. Tu voulais aller dans ces influences-là qu'on a beaucoup. Des États-Unis, les Bruno Mars, les Justin Timberlake,
exact.
Qu'on a, qu'on revoit au Centre Bell, qu'on entend, qu'on aime, mais qu'il n'y a pas tant au Québec. Est-ce que c'est dur de dire je vais aller là, une zone qui est peu ou pas explorée?
C'est déstabilisant un peu parce qu'on ne sait pas comment les gens vont le percevoir, vont réagir, mais pourtant, les gens, quand je parle des gens, je dis le monde en général, capote sur Can't Stop the Feeling de Justin.
Oui, oui.
Tout le monde connaît ça du Bruno Mars. Tout le monde triple là-dessus, mais on dirait qu'en français, on l'assume moins. Puis il y a le côté de la transportabilité d'un projet aussi dansant avec des danseurs, toute la patente. Puis j'ai fait, c'est pas grave, on y va, on fait l'album, là, ça nous tente. Puis encore une fois, Gauthier Marineuf, mon réalisateur, s'est vraiment éclaté avec les arrangements. Puis la première chose qu'il faisait, parce que là, comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, j'ai envoyé une track de voix, une track de guitare. Ben, il flushait ma track de guitare. Puis là, il partait avec du drum. Puis là, il faisait des beats latins. On s'est inspiré des trucs comme Alvaro Soler puis Despacito, Luis Fonsi. On était dans ces beats-là plus latins, ouais. Moins québécois, moins far on the floor, tu sais, moins folk. Puis ça a donné que ça fit avec moi parce que je fais des chansons de même dans mon spectacle. Fait que j'avais le goût d'y aller. Puis la réaction est super bonne. Les gens trippent. Puis je pense que ça va juste faire que dans mon show, il va y avoir de moins en moins de Bruno Mars, mais il y aura du Jérôme Couture dansant comme aux États-Unis, tu comprends, mais en français, c'est ça que je veux faire.
Mais les gens, ils vont pas dans cette zone-là parce que ça coûte plus cher, parce qu'on veut avoir des danseurs, parce que ça prend souvent, quand on veut y aller avec la totale, des écrans pour faire des projections.
Ben oui.
Et tout ça, ça coûte cher. Là, c'est toi le producteur.
Ouais, fait que là, le producteur, il dit, moi, mettre la main dans mes poches.
Mais là, tu le sais, toi, que ça coûte cher.
Mais je le sais, puis tu vois, c'est d'assumer ça, ce côté-là, de lâcher la guitare, justement, un peu, parce que je suis capable de jouer de
parce que t'es pris.
Oui,
je peux pas danser quand t'as la guitare.
Quand j'ai la guitare, mes mouvements sont limités parce qu'il faut que je joue comme du monde. Puis là, souvent, il faut que je joue du kick en même temps quand on est une version réduite. Fait que ça marche pas, tu sais. Il y a une dichotomie entre ce que j'offre sur 10 puis ce que j'offre en version live. Fait que là, je me suis dit, parce que même l'année dernière, j'ai fait beaucoup de shows de la Rosec, c'est-à-dire vraiment des minimalistes, là, moi et
des
mon pianiste.
Salles dans salles. L'est du Québec.
Exactement. On était dans le coin des Rivières-du-Loup, chalet Onyx, là, t'es dans le fond, tu sais, on était deux. Puis les gens venaient voir le show puis ils disaient « C'est super bon, mais on pensait que tu allais danser. » Mais là, tu dis... Tu sais, mais c'est vrai, mais là, je dis « Ben, je veux bien... » Puis là, j'essaie de leur expliquer. Je peux pas, il faut jouer de la... Puis je me dis « C'est pas leur job, eux autres, de savoir qu'il faut que je joue de la guitare pour du kick pour que la chanson soit bonne. Eux autres, ils veulent que je danse. » Puis ils ont raison. Dans le fond, c'est mon essence à moi. Fait que c'est pour ça que pour la tournée à venir, qui va s'appeler « Pour danser », j'ai vraiment compris, là. Parce que pourquoi on vient voir Jérôme Couture pour danser? Pour savoir
pour la musique aussi, quand même.
Pour la musique aussi. Mais je me fais toujours... Ouais, quand, mais j'espère un peu, quand même. Mais pour avoir du fun pour danser, fait que tu sais, je vais avoir des danseurs avec moi, deux danseurs en tout temps à partir de la prochaine tournée. Puis même dans les versions réduites, c'est là que j'arrivais à ce que tu disais. Et je vais avoir des télés pareils avec moi, avec du motion design, puis mes deux danseurs, puis il n'y aura pas de musicien, ça va être un DJ. Toutes les bandes de rap le font. Puis on dirait qu'en pop, on a de la misère au Québec à pas le faire acoustique. On veut montrer qu'on est musicien. Puis qu'on est... Je le suis, musicien. Là. J'en joue chez nous de la guitare. Le monde le savent. Ça va. À ça, je vais danser. Puis on travaille tellement fort sur les arrangements pour livrer le disque comme du monde puis le faire encore mieux. Ben, on va utiliser ces tracks-là. Puis les gens vont triper parce que je serai pas occupé à faire l'homme orchestre, mais je vais faire le Jérôme Couture que le monde connaisse.
T'sais. Mais est-ce que le rêve avec un projet comme ça, c'est de faire un Sandbell, justement?
Ben oui. J'en ai parlé à mon producteur, c'est moi le producteur.
Ouais, c'est ça, t'en as parlé à toi-même.
J'étais en train de me vendre un peu, mais on travaille avec des gens en ce moment, il y a des pourparlers pour avoir de l'aide justement. Parce que c'est sûr que moi, je prévois, je l'ai dans la tête, j'aimerais finir, mettons, cette tournée-là au Centre Vidéotron, au Centre Belge. Je le vois, ça se peut, pourquoi ça se pourrait pas, tu sais. J'ai dit que les gens vont me suivre, puis je sais pas ça va être dans combien de temps, mais je veux le faire, puis c'est ce genre de show-là que je veux livrer. Je veux que les gens m'associent à ça. Quand on va voir Jérôme, c'est un party, il y a des danseurs, c'est fou. Puis tu sais, je travaille avec Tommy, qui est dans Marvel, Tommy Tremblay, deux danseurs de Marvel qui ont fait Révolution, qui sont écœurants. Fait que tu sais, j'ai les ressources, je suis là, on s'arrange pour que ça marche dans les budgets, on veut que le monde tripe, puis que moi, je puisse m'éclater aussi.
T'as toujours dansé, mais as-tu pris des cours pour cette tournée-là? As-tu suivi une formation? Tu vas en faire beaucoup plus.
Oui, ben c'est ça. J'ai fait des heures de répétition avec justement mon chorégraphe Tommy, qui a aussi appris à me connaître parce que tu sais, j'ai certains gestes qui sont plus personnels, certains. Mais oui, j'ai donc dû travailler fort pour le lancement parce qu'on faisait quand même 4 chorégraphies au lancement. Puis il faut que ça demeure. Léger, faut pas que ça ait l'air placé trop, tu sais.
Ouais, puis faut pas que tu penses jusqu'à ça parce qu'il y a une chanson à chanter.
Ben c'est ça, fait que au lancement c'était à Montréal, j'étais très nerveux, mais tu sais là déjà on était à la Belle et Bombe, les gars sont venus avec moi, on a fait les chorégraphies, on a monté une nouvelle, puis je pense que tranquillement à force de travailler avec lui, avec Tommy le chorégraphe, il comprend c'est quoi mon style, puis là il m'aide à m'améliorer, mais dans mon genre à moi, tu sais, on n'est pas dans... Je fais pas de backflip demain matin. Eux autres, ils en font, là, c'est correct. Mais on développe là-dessus. Fait que oui, c'est clair que je vais prendre encore des cours et beaucoup d'heures de répétition.
C'était comment pour toi de le voir, évidemment, tu es sur la scène, mais de voir l'ampleur qu'il avait ce lancement-là à Montréal, parce que tu l'avais, là, ce que tu rêvais, les chorégraphes, les projections, tu avais
ouais,
tout télés, ça.
Ouais.
C'est comment pour toi, ça? Est-ce que tu as pogné de quoi? Là,
ah oui,
tout
j'ai pogné de quoi, j'ai pogné de quoi. Puis c'est juste que j'étais tellement nerveux que j'ai pas pu en profiter à 100%. Mais le moment où ce que je suis plus fier en plus, c'est que je me suis retourné puis j'avais mes 7 amis qui chantaient. En plus, j'avais 7 choristes qui sont impliqués gracieusement dans le projet parce qu'ils ont enregistré sur l'album aussi. Parce que c'est mes amis. J'ai commencé avec eux autres quand j'avais 16 ans. On faisait des concours de chant à capella, tout ça. Fait que mon frère était là-dedans, tu sais. Fait que, bref, j'avais toutes mes amis avec moi. J'avais mon band rêvé, tu sais, avec mes 3 musiciens, les 7 choristes, les 2 danseurs, 8 TV, tu sais. C'est ça, ouais, c'est ça que je veux continuer d'offrir sur scène, mais... C'est sûr qu'il faut que les budgets suivent. On n'a pas le choix, sinon ma marge de crédit à m'amener. Ma soeur a un téléphone. Mais bref, c'est ça qu'on veut faire. Fait que j'y vais tranquillement, mais toujours en misant là-dessus sur les danseurs. Puis le côté que quand on vient voir Jérôme Couture, c'est festif, ça danse. Puis qu'on n'ait rien à envier aux productions américaines éventuellement.
Tu as lancé ta compagnie de production, les productions J-Cut.
Yeah.
J'imagine que c'est ton surnom, je suppose.
Ben, ce qui est drôle, ça c'est vraiment cocasse. Mon adresse courriel depuis que j'étais vraiment jeune, c'était genre J-I-Y-C-O-U-T pour J, parce que tous mes amis m'appelaient J, puis écoute. Puis à un moment donné, quelqu'un me disait « Hey, c'est brillant ça, j'écoute! » Tu sais, j'écoute, comme le verbe écouter. Ah ouais. Puis là, J, j'aime beaucoup ça. Puis je fais « Ah, ben oui! » C'était voulu, mais c'était pas voulu par là. Puis à un moment donné, je me suis dit « Si je crée mes propres productions un jour, ben je prendrai ce nom-là. » Puis là, ben voilà, j'ai changé le nom. C'est un gros G. Puis « Production, j'écoute. » Je trouve que c'est le fun. Ça me représente. Puis il y a un petit jeu de mots. C'est le fun.
Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller dans la production? Il y a beaucoup d'artistes qui le font maintenant, de plus en plus. Il y en a qui le font maintenant.
Ouais. Mais je te dirais que c'est non seulement un goût, mais c'est de la nécessité. On n'a pas le choix. Puis très honnêtement, c'est mon producteur de disques du deuxième et du premier, qui est Louis-Armand Bombardier, L.A.B. De la célèbre famille Bombardier, mais qui lui fait de la musique.
Oui, oui.
Il est pas des
menteurs. Il n'y
a rien à voir dans ces séries, appelez pas pour... mais... bref, c'est
tout lui. Tout
de
même.
non, tout de même. On va changer de sujet. Fait que, c'est lui qui m'a dit, ben, tu sais, j'étais en tournée un peu plus acoustique, puis il dit, Jérôme produit les dons. T'as ta compagnie, t'as tes taxes, t'es, t'sais, fêlé, t'sais, puis je vais t'accompagner si t'as besoin là-dedans, puis je vais arrêter de prendre des sous comme producteur, puis ils vont aller dans tes poches, ces sous-là. Mais on va t'encadrer, on va t'aider, puis finalement...
Il y a un producteur qui t'a dit qu'il voulait arrêter de prendre des sous dans tes affaires.
Ouais,
c'est rare, ça.
C'est rare parce que c'est un ami. Louis, c'est vraiment un mécène. La gang des Lébis, c'est des gens dévoués qui, depuis le jour 1, investissent dans mon projet puis me soutiennent. Puis ils sont conscients des besoins du marché. Oui. Fait que, c'est, donc, par nécessité, je suis arrivé là-dedans puis j'ai trippé, j'ai aimé ça. Puis ça me permet aussi d'avoir une belle liberté créatrice jusqu'à faire cet album-là qui je l'ai fait comme je l'ai voulu. Je l'ai designé au complet avec l'aide de Marie-Claude Meilleur pour la pochette, tout ça. Mais c'était vraiment mes idées, les fleurs, le rose. Là, j'étais comme « Ah ouais, on y va ». Puis j'étais un gars, j'aime le rose, j'aime les fleurs, c'est correct. Mais, puis j'étais allé à fond. Mais mon gérant était là « T'es sûr? Bleu serait beau! » Non, non, on y va, rose, j'ose le rose. Pourquoi pas? Tu sais, je veux montrer mes couleurs que j'aime puis que j'ose à ma façon, tu sais.
Tu as réservé pendant 2 jours un théâtre au Saguenay.
Ouais.
Pour monter tout ça, pour commencer à penser au spectacle, au lancement, tout ça.
Yes.
D'abord, c'est une chance de pouvoir avoir un théâtre comme ça.
Oui, bien, en fait,
2 jours.
Moi, c'était un... Oui, c'est une chance, parce qu'ils m'ont aidé, là, je vais le dire. J'aurais pas pu me le payer sinon, sauf que... Quand on monte un spectacle, un lancement, ça finit toujours pareil. Parce que les gars sont pas disponibles, parce que les musiciens sont occupés, parce que nous autres, on a des entrevues, parce qu'on n'a pas le temps, puis on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Puis finalement, on finit par faire les chansons pour la première fois en après-midi, la journée du lancement, quand on est stressé, puis il y a un bug de son, puis il manque un éclairagiste. Tu sais, il y a tout le temps une affaire. Fait que là, j'ai dit non, cette fois-ci, je vais arriver prêt. Puis le son est toujours difficile parce qu'en avant, le gars, il est pogné d'un théâtre à Montréal que le système de son a 400 ans. Puis là, il manque un fil d'un bord. Tu sais, c'est toujours la même affaire. J'en connais la mécanique. Et je me suis dit, cette fois-ci, je me ferai pas pogner. Je vais vraiment louer un théâtre. Puis j'ai magasiné. Puis là, j'ai appelé du monde du Saguenay. Puis c'est même mon sonorisateur qui vient du Saguenay qui m'a dit, « Hey, pourquoi qu'on demande pas à notre ami Félix là, puis la gang du Vieux Théâtre de la Baie? » J'ai fait, « Ben oui. » T'as bien raison, on les appelle, puis ils ont dit oui, venez-vous-en, puis ils nous ont chargé des pinottes, là, pour vrai. Puis ça a fait qu'on est tous arrivés là-bas, puis moi, je voulais voir, vu que j'avais des télés, j'avais 8 télés, donc il y avait du motion design dedans, donc ça veut dire que c'est des formes qui bougent, qui font de la musique avec des bouts de parole et tout ça. Fait que j'avais besoin de voir, là, qu'est-ce que ça donnait, est-ce que ça marchait, est-ce que le son marchait, arrivait en avant. Puis là, ce qu'on faisait, on faisait la chanson, on enregistrait, on filmait, on enregistrait le son, on allait écouter en avant. Puis pour faire la bonne balance, vu que c'est un album un petit peu plus électro, qu'il y a des sonorités. Tu mets pas ça sur un clavier, il y a des espèces de sons là, que je peux même pas imiter, là. Ça se peut pas. Fait qu'il fallait ajuster tout ça. Fait que le sonorisateur Rémi s'est ajusté, nous on a ajusté. Fait que ça a fait qu'on est arrivé à Montréal et on était prêts. T'sais.
Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, ça, genre, je m'en mets trop sur les épaules ou vu que c'est ça que tu voulais vraiment, tu t'es dit, allons-y à fond?
Non, c'est ça. Puis je me suis donné les outils pour justement pas avoir cette oppression-là. J'étais oppressé pareil à Montréal parce que c'était à Montréal, puis je voulais bien performer, je voulais pas oublier mes paroles, bien chanter, bien danser, t'sais. Fait que ça, c'est normal, mais quand j'étais au Saguenay, entre autres, je me disais, oui, c'est ça que j'avais besoin, t'sais, de le voir au complet. Je me suis donné les outils, donc, pour bien faire mon travail de producteur, de monter le show, que ça sonne à mon goût, que le visuel soit bon. T'sais, j'ai engagé moi-même la firme Zung pour faire le motion design, puis là, je les fouettais. J'ai besoin de ça pour telle date. Puis, ah ouais, puis, fait que, tu sais, à un moment donné, il faut se donner les moyens de nos ambitions, puis c'est pas toujours monnayable. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est pas juste de l'argent. C'est, moi, j'accepte plus aujourd'hui qu'on me dise, ah, ça a coûté même trop cher, ça se fait pas. Ouais, ok, check-moi. Je prends le téléphone, je prends une demi-heure, puis j'ai trouvé un contact, puis on le fait. Puis s'il faut m'aller gosser un pied de TV moi-même dans mon garage, tu sais, j'accepte plus qu'on me dise non. Pour rien. Donne-moi non, ça on peut pas, mais on pourrait faire ça. Donne-moi une solution. C'est ça que j'ai besoin.
Oui, c'est ça. Ça se peut que ça se puisse pas, mais donne-moi une alternative.
Ben oui, puis sinon on va trouver la façon de le faire. Moi, on va trouver une affaire. C'est sûr, évidemment, ça n'existe pas. Tout existe aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a un Coréen, là, quelque part, qui a inventé une lumière qui tourne là, comme tu veux, là, puis qui s'est fit d'une TV, puis qui, ça, qui tire presque pas de jus, puis qui fit avec le laptop. T'sais, aujourd'hui, tout existe. Là.
Sur l'album, il y a une chanson pour tes nièces.
Oui.
Est-ce que c'est plus difficile quand on écrit en pensant à des gens proches de nous comme ça?
Moi, c'est plus facile. J'ai de la misère d'emblée à écrire, à inventer une histoire. Quand j'écris des chansons, je l'ai déjà fait. Puis je vais continuer de le faire aussi, mais c'est pas ce qui vient au départ. Puis j'ai commencé cette chanson-là, puis je me suis mis à penser à mes filles. Je venais de passer à chaque année, on va dans un hôtel, je te le compte à toutes les fois. C'est le cadeau que je leur donne du temps. Puis je leur en donne pas beaucoup par année, mais au lieu de leur donner plein de cossins, là, la 8e Barbie, là, à un moment donné, tu sais, ça va, ils en ont 7 autres avant. Fait que j'aime mieux leur donner du temps, puis qu'on passe du temps ensemble, puis qu'on. Puis on était.
Fait que tu pars avec eux autres.
Je pars avec elles. Puis cette année, on est allé aux États-Unis, on est allé au J-Peak avec mes deux nièces, puis on est allé se glisser, puis tout ça, c'était écœurant, tu sais. Puis j'ai vu aussi qu'elles commençaient à vieillir, commence à être début de l'ado, puis tout. Puis là, ils ont commencé, c'était super cute. À un moment donné, j'étais avec ma copine, puis là, on les cherche, on sont où? Il y avait deux étages où est-ce qu'on habitait. Puis là, on est juste allé voir, puis ils commençaient à se maquiller, tu sais, parce qu'ils allaient aller souper. Puis là, je trouvais ça beau, je trouvais ça cute. Puis en même temps, je suis parrain, puis je suis comme devenu inquiet un peu déjà. Tu sais, je me disais, bon, la pression sociale embarque, le look, les deux sont à l'école, on en parlait même de leur amitié, puis tout, à quel point, même le culte du corps, puis l'Instagram, puis les photos, puis là, je suis comme, mon Dieu, je suis avec le parrain, puis je capote, tu sais. Fait que j'avais le goût d'écrire une chanson là-dessus, puis la chanson s'appelle Julia, parce que c'est Juliette et Mia, puis... Donc, je voulais que ce soit...
Puis c'est long comme titre, Juliette et Mia.
Ouais, ben c'est ça. Ça que moi, Juliette et Mia. Fait que, tu sais, je voulais créer un personnage aussi, donc fictif, qui est comme un amalgame des deux, puis qui parle finalement de confiance en soi, puis de garder l'innocence, puis de... Encore une fois, le culte du corps est tellement mis de l'avant avec cette génération-là, Instagram, les photos en maillot à 11 ans. Tu sais, je suis comme, ça se peut pas. Ça me rend nerveux pour elles, tu sais, puis pour les parents. Puis j'avais le goût de leur dire, et puis c'est ce que je dis dans la chanson qui... Pour moi, et la phrase clé, tu sais, n'oublie jamais de croire que la plus belle du miroir, c'est toi, oui, seulement toi. Tu sais, c'est une question de confiance, puis que la diversité corporelle existe, puis que c'est beau, puis que. En tout cas, c'est ça. C'était comme un peu mon devoir de parrain, je pense, de les mettre en garde un peu avec cette chanson-là.
Mais elles ont réagi comment quand elles l'ont entendue? Parce qu'évidemment, elles sont en plein dans cette période-là.
Oui, bien, j'ai pas encore eu de feedback total. Parce
qu'on veut pas se faire la morale non plus, qu'on est des pré-ados.
Non, exactement, mais je pense que. Encore une fois, les chansons font leur chemin. Puis, tu sais, je les ai pas encore confrontés à ce sujet-là. On s'est revus récemment. Puis, mais ils savent que la chanson est pour elles. Je sais qu'elles l'écoutent. Je le sais, tu sais. Fait que je pense que ça fait son petit bonhomme de chemin. Puis, on va reparler sûrement à notre prochain voyage. Puis, tu sais, il va y avoir quelque chose là-dedans. Fait que je veux pas être moralisateur. Je veux seulement leur donner des outils. Puis, leur dire que je vais toujours être là. Si ils ont besoin de quelqu'un d'externe juste pour rappeler. Parce que ça marche pas avec le parent, parce que l'école, c'est n'importe quoi, les amis. Mais pareil, il va être là. Appelle-les, puis il va venir, puis on va jaser. Puis je vais essayer de te donner les meilleurs conseils que je peux d'un œil extérieur.
Ça, c'est les filles de ton frère?
Une fille de mon frère, une fille de mes cousines.
Est-ce qu'eux t'en ont parlé de la chanson? Si les enfants t'en ont pas parlé, est-ce qu'eux t'en ont parlé?
Oui, oui. Les deux étaient très touchés. Mon frère était très touché, ma cousine aussi. Parce que je n'avais écrit une pour elle aussi sur l'album d'avant. Mais moi, c'est comme ça. Je parle aussi de mon meilleur ami sur l'album. Je parle de ma blonde. Je parle de tous les gens alentour de moi. C'est ma réalité. C'est mon paradis. Ça veut aussi dire mon univers à moi. T'sais. Fait que j'étais content qu'ils m'en parlent. Je pense qu'ils étaient touchés. J'espère. Je sais pas. On dirait que il y a un côté de gêne. Hein. Je deviens gêné un peu parce que je peux pas leur demander d'aimer ça parce que je l'ai écrit pour eux.
Non.
Puis on comprend. Je veux pas non plus que ce soit comme... qui se sentent obligés de l'écouter. Fait que ça existe, ils savent, c'est là. Je trouve que c'est juste un beau lien. C'est comme une fleur qu'on donne à quelqu'un, mais qu'on n'attend rien en retour. C'est ça que comme ça je le vois.
Mais de chanter des chansons qui s'adressent à des gens devant eux. Par exemple, les chansons pour ta blonde, j'imagine que tu les as jouées devant elle.
Oui, ça je l'ai.
C'est comment ça? Ça doit être stressant.
C'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant, puis... c'est gênant. Parce
on ne pas les forcer à aimer ça, mais ce serait le fun en maudit.
Ça serait écœurant. Tu te dis, moi, ça me fait de quoi? Fait que tu espères que ça va générer le même sentiment chez la personne visée. T'sais. Ça m'est arrivé aussi, encore une fois, je parle de mon meilleur pote là-dessus, pour une chanson. Puis j'ai fait écouter la chanson, il savait pas. T'sais. Puis il était là, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait écouter ça? Je suis venu vraiment pas bien. T'sais. Parce qu'encore une fois, moi, c'est un message d'amitié profond. T'sais. Mais je peux pas lui demander d'aimer ça, je peux pas lui demander, c'est juste que moi je l'ai écrit parce que moi ça me faisait du bien. C'est une lettre ouverte, c'est comme une bouteille à la mer, tu sais, qu'on envoie parce que ça nous fait du bien. Mais oui, c'est vraiment stressant, c'est gênant, je sais pas comment... Ouais.
Jérôme, ça fait 5 ans qu'on te connaît parce que la voix, C'était en 2013.
Exact.
5 ans plus tard, 3 albums plus tard, comment tu vois le parcours accompli depuis La Voix? Parce qu'évidemment, il y a eu tout un parcours
ça,
avant.
On en a déjà parlé, c'est pas ça le point.
Tu as fait une longue feuille de route avant La Voix, mais ce 5 ans-là, tu le vois comment maintenant?
Je le vois comme parsemé d'événements tellement rocambolesques, tripants. Tu sais, j'ai fait le Sandbell avec Marc, avec... Je reparlais de tout ça l'autre fois. On dirait que tout c'est... Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que les choses ralentissent, même si on dit que le temps va vite dans la vie. Puis tu sais, plus on vieillit, plus le temps a l'impression de passer rapidement, mais... Je sais pas, il s'est tellement passé de choses la première année.
T'as 34 ans, t'es pas si vieux que
non,
ça.
Non, non, c'est ça. Non, je sais. Là, j'ai l'air de parler comme un vieux sage. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, depuis La Voix, on dirait que le temps a ralenti un petit peu puisque je suis retombé sur mes pattes et je prends de plus en plus le contrôle de mes affaires. Et c'est pas négatif, je l'avais pas perdu avant, c'est pas ça. C'est que je prends mainmise sur les choses et je m'intéresse à un pan de l'industrie que je connaissais pas, c'est-à-dire la production, toutes les ramifications du faisage, de comment on fait un album, des subventions, d'arriver de la journée 1 en studio jusqu'à avoir ça dans les mains aujourd'hui. Il y a énormément d'efforts, il y a énormément d'étapes. Puis je pense qu'aujourd'hui, je trouve que, en regardant en arrière, tout ce parcours-là fait que je suis maintenant un gars qui connaît l'industrie, qui connaît ce métier-là. Puis je me trouve plus connaissant puis plus à l'aise d'en faire partie parce que je connais comment c'est ficelé tout ça un peu.
Es-tu un bon boss parce qu'un producteur, c'est ça? Tu donnes des commandes, tu t'engages des gens, forcément?
Je pense que je suis un trop bon boss.
Oh!
Ouais. Dans le sens que
parce que tantôt, tu avais l'air à dire que tu tiens ça serré, il y a des deadlines, il y a des demandes.
J'essaie. Okay. Je suis là. Puis ça, les deadlines, pour moi, ça, c'est primordial. Si c'est pas respecté, bien, on travaillera juste plus ensemble après. T'sais. C'est... Puis je suis pas... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'arrive pas, mettons, pour les... Tu sais, à négocier, là. Quand il faut négocier, bah, faut, je dis, combien tu me charges, là? Moi, j'ai ça de budget, là. Ça va être... Ah, OK, c'est pas grave, je te le donne pareil. je suis comme j'ai de la misère avec ça, tu sais, à négocier puis à toujours checker la scène pour toutes les affaires. Ce qui fait que ça me pénalise un petit peu des fois. C'est moi qui est perdant un peu, mettons, au niveau des sous. Mais je sais que quand je fais confiance aux gens... Et je m'attends à ce qu'ils me livrent quelque chose, puis je vais aller... Tu sais, je serais pas... Je suis pas du genre, si, mettons, ça arrive pas à la dernière minute, ben, à tout flusher, puis d'engueuler à personne, puis tu sais, je peux pas faire ça. J'ai de la misère, des fois, même si je sens que c'est pas tout à fait ça, que c'est pas tout à fait la bonne chose que la personne me livre, que ce soit un musicien ou, ben, n'importe quoi, ou un graphiste, j'ai de la misère, des fois, à juste tirer à plug. Tu sais, je vais m'asseoir avec la personne puis on va travailler jusqu'à la dernière seconde, ce qui fait que ça me demande beaucoup plus de temps. Tu sais, je veux dire, un bon boss, quelque part, c'est quelqu'un qui est respectueux, mais qui est ferme. J'ai plus de misère à être ferme, tu sais, à dire c'est ça que je veux puis c'est tout. Je veux dire, c'est ça que je veux, à cette heure, on va y arriver ensemble. On a besoin de le faire, je vais pousser, mais c'est ça, je manque un petit peu de fermeté. Là. Je serais pas... mon entreprise, mettons, à bourse, là, c'est pas tout ça marcherait. Moi, c'est les émotions d'abord, je suis un artiste.
Avais-tu ça, une fibre entrepreneuriale, toi? Est-ce que tu as ça dans ta famille? Est-ce qu'il y en a qui sont en business chez toi?
Oui, j'ai un oncle qui est en business, un cuisinier qui a fait de la business longtemps, qui en fait encore aujourd'hui, qui a eu une partie, toute la partie restauration d'un club de golf, tout ça. Fait que, oui, il y a ça en nous, mais on est plus des... Nous, on est des faiseux chez nous. Dans les coutures, c'est comme...
Ton frère fait de la musique aussi, non?
Oui, il fait de la musique, mais pour s'amuser maintenant. Ouais. Il est postdoctoral en biologie moléculaire humaine. T'es un fou, t'sais, il est bon dans tout. Bref, j'ai toujours eu... Quand je dis qu'on est des faiseux, c'est que... Encore une fois, moi, on s'assoyait autour d'une table, on est des créatifs, on est tout le temps comme, OK, on va faire un show avec une marionnette de 20 pieds de haut, on le fait, puis là, tout le monde dit, comment on va faire ça? Bam, on le fait, tu sais, on va l'acheter des 2x4, puis on fait une marionnette. Puis on l'a fait, tu sais, ça, c'est un exemple, je l'ai fait, j'avais 16 ans, tu sais. Fait qu'on se rend jusqu'au bout, ce qui fait qu'on est capable, on se fait pas dire non, on avance, on fonce, mon père est toujours comme ça aussi, il a fait des décors encore aujourd'hui, il crée des cartes de souhait d'anniversaire qui peint sur de l'écorce, là, tu sais, puis il s'en va vendre ça, puis il fait ses affaires, puis ça me fait triper, tu sais, on est, oui, on a un petit peu une fibre entrepreneuriale, mais on n'est pas des gars de business, tu comprends ce que je veux dire? La différence est là. On va s'arranger pour que les choses se passent. On n'est pas chez nous à attendre que quelqu'un le fasse à notre place, on le fait. Mais on est moins bon dans les chiffres, mettons, mais les choses finissent par arriver.
Tu as dit tout à l'heure qu'au Saguenay, souvent, on se fait dire on est né pour un petit pain.
Ouais.
Quand on est en région, souvent, on se fait éteindre par des gens autour de nous qui disent « ça se pourra jamais,
ouais.
T'es pas à Montréal ou t'es pas à Québec ». Quand tu y arrives, quand tu sors et que ça marche et que tu reviens, est-ce qu'il y a un regard de fierté des gens chez toi? Est-ce que tu sens ça?
Oui, vraiment. Les gens sont fiers parce que, surtout ceux qui m'ont supporté tout le temps et puis qui étaient là en me disant « Vas-y, travaille, tu peux y aller, puis tu vas y arriver, puis va, travaille fort, tu sais. » Oui, puis je pense que quand les gens nous disent ça, c'est des fois dû à des regrets un peu. Tu sais, je connais des gens très près. Mon père aurait pu faire carrière en musique. Mon père aurait eu le talent pour ça. C'est un excellent chanteur encore aujourd'hui, puis il a fait l'album des prêtres avec Mario Pescha, puis tout, il est là-dedans, je trouve ça trippant. Il chante aujourd'hui, tu sais.
Il chante sur l'album de Mario?
Oui, avec, okay. Avec le Cœur Gospel Experience, okay. Les gars, puis ils ont fait la tournée, puis tu sais, avec ce Cœur Gospel-là, mon frère aussi, ils sont en tournée depuis 2 ans, fait que là, on s'appelle, puis on dit « T'es en show à soir! » C'est cool, tu sais, il vit de sa passion, aujourd'hui, fait que je pense que les gens qui nous disent ça, c'est juste parce que des fois, il y a des rêves éteints. Puis qui, des fois, c'est des contextes compliqués. On peut pas en vouloir aux gens. Là. J'ai un oncle aussi qui, à un moment donné, il avait passé des auditions pour, je pense, c'est une tournée qui s'appelait « Vive les gens » avec Michel Fugain des affaires. Là, ça fait longtemps.
Okay, mais
okay. Il en prenait 4 aux gens au Canada. Ben, il était dans les 4. Puis mon grand-père a dit « C'est bien de valeur, tu restes ici. Puis je te donne pas l'argent pour ça. Puis... » Mais c'est pas que mon grand-père était pas fin. Mon grand-père était un musicien. Mon grand-père, il faisait ferblantier. Il faisait... C'est juste que c'était autre temps, autre mœurs. C'était pas mis de l'avant comme c'était pas une carrière possible. Fait que c'est sûr que, mettons, mon oncle aurait été en droit de me dire, ben, c'est bien beau le kid, là, mais ça arrivera pas, tu sais. Mais il l'a pas fait. Au contraire, il m'a encouragé parce que ça a fait l'inverse. Pour lui, il a fait, moi, j'ai pas eu la chance, vas-y.
Puis, ouais,
j'avais 12 ans, puis il me coachait tous les jours à me faire répéter puis chanter. Fait que je pense que c'est ça. C'est juste dû, des fois, à un manque de possibilités ou un manque de soutien des gens ou des fois d'argent, simplement. T'sais. Ça prend du guts. Puis là, si, mettons, t'es en région, puis finalement, par la force des choses, t'as des enfants, t'as 18 ans, t'as pas fini ton cégep, tu veux faire de la musique, mais il faut que tu t'occupes de ton kid. Fait que là, il faut que t'aies de l'argent. Il y a plein de circonstances atténuantes qui font que si t'es en plus loin des grands centres, ça va être plus difficile pour toi de faire cette carrière-là. T'sais.
Tout à l'heure, tu as dit grâce aux plateformes, notre musique voyage plus.
Ouais.
Souvent, ces plateformes-là ont été vues comme l'ennemi.
Ouais.
Est-ce qu'il faut changer le thinking?
Il est là, l'ennemi! Non.
Est-ce qu'il faut changer le thinking et dire, ben oui, ça enlève des ventes, mais en même temps, quelle chance on a de pouvoir se faire entendre partout?
Oui, effectivement, c'est ça. On n'a pas le choix de s'adapter.
On ne peut pas se battre contre la bête. Là.
Non, c'est impossible. Ça ne donne rien. Je pense cependant qu'il doit y avoir de la volonté politique.
Oui.
Ça prend ça.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a des gens qui sont imputables, puis les artistes ont fait notre job. C'est pas les gens qui sont imputables. Tu sais, les gens sont chez eux, puis on leur donne le pipeline gratis. En tout ton ordi, tu vas avoir de la musique gratis, des films gratis. Puis toi, t'es là, c'est là. T'as le choix de payer aussi. Tu peux aller chez Vidéotron, puis tu vois un film. Il n'y a pas de problème, mais c'est à toi. On te l'offre gratis, puis on te l'offre où tu payes. Ben, le monde n'est pas con. La vie te coûte tellement cher qu'on va y aller gratis. C'est juste que, tu sais, c'est ça que je veux dire, les câbles distributeurs, les gens qui...
Mais il y a ceux qui le fournissent gratis.
Ben là, tu sais, à un moment
donné... Eux, ils en font de l'argent.
Ben là, c'est ça. C'est que là, ils disent, la musique, c'est un produit d'appel. Tu sais, ils disent, OK, achète notre téléphone, ben tu vas avoir ta musique gratis dedans. Ouais, mais la musique gratis, là, moi, mon album, il m'a coûté une couple de mille, je le dirais pas, mais tu sais... C'est quoi le problème? Fait que là, c'est pour ça que je dis que c'est pas les gens qui sont imputables. Il y a besoin de valoriser ça autrement. Ce qui est trippant, c'est qu'on le sait, en date d'aujourd'hui, c'est jamais écouté autant de musique partout dans le monde. Fait que ça, c'est super positif. Puis de plus en plus, les Spotify, Apple Music, même YouTube Music est en train d'arrimer le tout pour qu'on puisse avoir un petit peu de sous pour nos chansons qui jouent parce que ça coûte cher faire de la musique, là. C'est pas... ça a l'air facile de même, là. On zing et ling dans notre sous-sol. Non, mais on a des billes à payer, tu sais, les réalisateurs, les bobines, tu sais, c'est onéreux, mais encore une fois, on peut pas en vouloir aux gens, tu sais. Fait que il faut s'adapter. Je pense que le marché est en train de faire un beau virage. Spotify prend une bonne part du marché. On est rémunéré pour ça, c'est bien. Ça coûte pas trop cher aux gens. Ça commence à être win-win, je pense. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais tu sais, quand ça te coûte 10$ par mois pour avoir accès à toute la musique du monde, pas si cher à payer que ça, là, tu sais. Mais il y a encore plein de vidéos sur YouTube qui disent comment craquer Spotify. Tu sais, là, on t'offre, au lieu de 10$ par album, qui est déjà pas cher, là, on t'offre 10$ par mois pour la musique en monde entier, puis tu trouves le moyen de le craquer en plus, là. Tu sais, donne-moi un break. Mais anyway, c'est pas grave. On va y arriver, puis les gens nous supportent, les gens écoutent de la musique. On peut pas lui demander de prendre ça sur les épaules. Bref.
Tout à l'heure, tu as dit que tu allais traduire des chansons en anglais.
Oui.
Est-ce qu'il y a projet de faire un EP en anglais ou un album complet en anglais?
Ce que j'ai en tête, c'est, encore une fois, on parlait de Spotify et tout ça dans le monde. Je trouve intéressant, c'est de
lancer des singles?
Ouais. Okay. Seulement des chansons de l'album, des versions, en fait, différentes en anglais qui vont être disponibles sur les plateformes numériques. C'est ce que j'ai en tête pour l'instant. Puis là, peut-être mon gérant m'a dit « Qu'est-ce qu'il parle là? » Je lui demande même pas parler. C'est comme c'est ce que j'ai en tête depuis ce bouton. On avait discuté, mais je trouve ça intéressant de servir de ces outils-là justement pour diffuser notre musique dans d'autres langues. Puis ce ne seront pas nécessairement des traductions, ça va être des adaptations, je pense.
Oui, parce que traduit mot à mot, c'est ça. Non, jamais bon.
C'est ça, exactement. Je vais travailler avec des gens qui sont bons là-dedans, tu sais, puis qui vont m'aider aussi, puis tout ça. Mais c'est un projet que je veux faire depuis longtemps, puis je trouve que de le faire comme ça, c'est une bonne façon graduellement de m'amener justement peut-être vers un possible EP en anglais, peut-être, puis d'exporter mes trucs à l'étranger différemment aussi, puis de pouvoir moi choisir de faire une version français ou anglais live. Je trouve ça intéressant. Je sais pas, c'est un truc que j'ai le goût de commencer, puis si je le fais comme ça sans pression de mon côté, puis que je diffuse ça sur les réseaux sociaux, puis sur les plateformes numériques de streaming, ben je me dis que ça peut m'ouvrir des portes, puis c'est ça fait partie de moi aussi.
Aimerais-tu ça, percer le marché international, ou en tout cas, du moins le Canada anglais, puis après ça, on verra par la suite?
Pas du tout. Non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est sûr. Et effectivement, c'est clair que j'aimerais ça me promener au départ dans toute la francophonie. Tu sais, c'est sûr, la France, la Belgique, même la Russie qui trippe sur les Québécois, le Japon aussi, tout ce qu'il y a en Asie, c'est quand même assez populaire aussi. Donc, encore une fois, on est citoyen du monde. Je vois des fois mes relevés de où est-ce que j'ai joué. Puis des fois, c'est fou, là, ce que je vois. Là, c'est en Afrique du Sud, c'est partout. T'sais. Fait que notre musique voyage, puis c'est difficile pour nous de le faire avant d'avoir de savoir qu'on a des fans là-bas. T'sais, j'ai un monsieur qui m'a envoyé une vidéo l'autre fois. Il marchait en Italie. Puis on entendait plus fort que tout sa rue. T'sais. Il dit « Je suis en Italie, voici. » Il me montrait la vidéo. J'étais comme « C'est normal capoté. » Je sais pas c'était quelle radio, je sais pas c'était quoi, mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose avec ça. Fait que d'ouvrir sur le marché anglophone, ça permettrait de jouer encore plus aux États-Unis. Puis de, c'est ça, on sait jamais.
Et d'aller faire ce type de show-là là-bas, parce qu'il y a un marché, clairement.
Ben oui, clairement, il y a un marché. Puis de le faire avec ma couleur à moi, mon côté québécois, tu sais, je suis sûr qu'il y aurait une différence. Ça apporterait une différence avec mon accent, parce que c'est clair que je vais avoir un accent aussi en anglais. Mais ce côté-là, exotique, quand on est en dehors, je pense que c'est intéressant. Tu sais, quand Mika s'est mis à chanter en anglais au départ, tout le monde s'est mis à triper, il vient de où, tout ça. Ben, c'est un Britannique, Mika. Puis, tu sais, il chante bien en français. Je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant dans ce côté-là, de l'accent. Puis, que je me dis, moi, ça m'intéresse quand j'entends des chanteurs avec des accents, avec des couleurs différentes. Fait que pourquoi ça serait pas bon aussi à l'inverse? Fait que je me pose pas trop de questions. Je vais le faire, m'a diffuser ça, puis on verra ce que ça donne.
Si on veut te suivre, on va sur les réseaux sociaux et sur le web.
Exactement, sur ma page Facebook, Jérôme Couture, Instagram, ou sinon jérômecouture.net, mon site internet aussi. Mais le plus à jour, c'est souvent sur Facebook. Là. Écrivez-moi, on va se parler.
Jérôme, merci d'avoir été là.
Merci à toi, Luc. C'est toujours un grand plaisir. Ouais.